Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, exceptionnellement, nous parlons d'un roman politique parce que parfois, ces ouvrages nous en disent plus sur une nation et son histoire que bien des essais. C'est le cas de l'excellent roman « Ceux dont on ne redoute rien » de Mathieu Thomas, avec qui l'on discute de Louis-Joseph Papineau, de sa non-rencontre avec Alexis de Tocqueville, des rébellions de 1837, mais aussi de la crise étudiante de 2012. Mais d'abord, revenons au présent. C'était jour de discours d'ouverture aujourd'hui à Québec et on l'analyse avec Rémi Nadeau.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Et bonjour Rémi Nadeau.
Bonjour Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal. Et c'est une grosse journée aujourd'hui au Parlement puisqu'il y a eu discours d'ouverture. Il y a eu beaucoup de choses dans ce discours d'ouverture de François Legault. Hein. Il y a eu énormément de choses.
Énormément.
Mais peut-être pas énormément de détails sur certains trucs très... cruciaux.
Oui, donc c'est comme un avant-goût de ce que la CAQ nous proposera en vue du prochain rendez-vous électoral. Et ça, en même temps, ça donne un peu le coup d'envoi à l'année électorale, parce qu'il reste un an. En octobre 2022, c'est le rendez-vous avec les électeurs. Alors, François Legault est allé de vastes énoncés sur des engagements. C'est comme un avant-goût du programme électoral de la CAQ et ça donne le coup d'envoi à l'année électorale parce que vraiment, François Legault est allé de ses priorités, des axes d'intervention. On parle de chantiers dans certains cas qui sont assez ambitieux, mais en même temps, le diable est dans les détails et on n'a pas de détails maintenant. C'est comme un peu... le début d'un striptease, si on veut, parce qu'on s'attend évidemment à voir des morceaux tomber par la suite au cours des prochaines semaines. Le premier étant normalement le plan pour la création de 37 000 places dans les garderies qui devraient arriver rapidement. Sur le
ton... Mais 37 000 places, en combien de temps? Moi, j'avais discuté avec des gens à l'interne qui parlaient de 5 ans. Ben, on sait que François Legault voudrait que ça se fasse en 3 ans.
Exact.
Mais... c'est pas avant le prochain rendez-vous électoral qui est dans 11 mois. Là.
Non, sauf que la CAQ pourra dire qu'elle a fixé un échéancier et qu'il y a une date prévue pour la livraison de chacune de ces places-là.
Ouais.
On s'entend que les partis d'opposition pourront toujours dire que c'est soit mal fignolé ou que c'est bon, etc. Mais au moins, la CAQ veut aller avec ça. Et sur le ton, peut-être avant de continuer avec les éléments,
ouais.
En 2018, M. Legault avait insisté beaucoup sur être proche des Québécois, avait insisté sur l'humilité et avait dit que le principal adversaire du Québec, c'était la peur
oui.
de secouer, je dirais peut-être, certaines vieilles habitudes. Alors là, il l'a dit, avec tout ce qui est arrivé pendant la pandémie, on n'a pas eu le choix, donc la peur est partie.
C'est ça.
Et maintenant, il disait que l'adversaire, c'était un peu la possibilité de tomber dans l'immobilisme et que c'est ça qu'il fallait contrer. Donc, les principaux axes étaient vraiment la santé, l'économie verte, je dirais, et sinon, ben la pénurie de main-d'œuvre avec tout ce que ça implique. Ça, ce sont comme des axes assez importants et la fierté toujours via la cohésion sociale. Là, M. Legault a insisté là-dessus cette fois-ci parce que, dit-il, c'est ce qui a permis au Québec de sortir de façon quand même correcte de la pandémie. C'est le fait qu'on avait une bonne cohésion sociale au Québec. Alors, pour ce qui est de la santé, Les éléments les plus importants, déjà, nous, le journal, on avait présenté le fait que le gouvernement voulait créer une agence publique pour se débarrasser de la dépendance aux agences de placement privées. Donc, c'est comme prendre « je contribue » et le rendre permanent avec une banque de candidats qui peuvent donner un coup de main aux besoins dans les établissements de santé. Sinon, ce qui est comme plus, je dirais, nouveau dans les éléments qui ont été présentés en santé, c'est qu'il a parlé d'une vaste décentralisation. Alors là, ça veut dire complètement le contraire de ce que Gaétan Barrette a fait sous les libéraux.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La recréation de régies régionales ou on a tellement fusionné de choses dans le passé, aboli des structures depuis Jean Rochon, c'est drôle parce que... Ben, c'est pas drôle, c'est jamais drôle, mais il est décédé aujourd'hui.
Oui, oui.
Donc, l'ancien ministre de la Santé, donc qui avait... créer la décentralisation des années 90.
Et ce qui m'étonne, c'est que M. Dubé a déjà dit, il me semble l'avoir, qu'il l'a dit publiquement, en tout cas, il l'a dit à moi dans une conversation à bâton rompu, assurément, qu'il ne voulait pas se lancer dans une réforme de structure. Donc là, quand on parle de décentralisation...
Je dirais même plus, c'était dans le premier discours d'ouverture.
Ah, c'est même possible, ouais, effectivement.
Ah oui, c'était parce écrit que... noir sur blanc. Il dit... Je vais retrouver, parce que ça vaut la peine. Il disait, la ministre de la Santé et son équipe vont éviter les changements de structure, les bouleversements inutiles, les grandes promesses. Il disait ça en 2018.
Ben, tu vois.
En novembre 2018.
Alors, donc, je m'interroge là-dessus. De quelle façon on va faire une vaste opération de décentralisation? Monsieur Dubé déjà a fait en sorte qu'il y ait un patron maintenant dans chaque établissement, comme les CHSLD. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées et je sais que M. Dubé insiste sur l'informatisation du réseau de la santé. M. Legault en a parlé brièvement, la transformation numérique. Et donc, ça, c'est pour les éléments en santé.
Hey, la transformation numérique, c'était là aussi. Hein? Non, il nous annonçait une véritable révolution numérique gouvernementale qui va générer des économies substantielles. Il y a de la suite dans les idées. Oui. Ça, c'est certain. Quand on lit le discours de 2018, il y a beaucoup de redites.
Oui, ben tu vois, effectivement, parce que c'est comme si c'était des éléments repris.
Mais il y a des nouveautés, Rémi.
Oui.
La fin de l'urgence sanitaire, ça a été annoncé.
La fin de l'urgence sanitaire qu'on place dans le temps au début 2022, après la vaccination des 5 à 11 ans. Alors, normalement, on s'attend à ce que bientôt ce soit homologué, le vaccin pour les enfants de niveau primaire, et qu'ils soient vaccinés idéalement, donc pas mal avant les fêtes, et qu'au début 2022, on pourrait dire, ça y est, on lève l'urgence sanitaire. M. Legault, c'est ce qu'il a signifié. Ceci étant... faut quand même dire aux auditeurs, ça ne veut pas dire fin de l'urgence sanitaire, ça ne veut pas dire fin des mesures sanitaires,
non.
Des consignes sanitaires, ça ne veut pas dire que le port du masque dans les lieux publics est soudainement plus obligatoire. Mais M. Legault avait déjà lié la vaccination des enfants au fait qu'on pourrait éventuellement, après ça, enlever le masque dans les lieux publics. Mais donc, ça s'en vient. Et il a profité du discours pour l'annoncer. C'était attendu quand même depuis longtemps. On se demande jusqu'à quand que le gouvernement gouvernera sous les décrets comme ça et sous l'urgence sanitaire.
Nouveauté en matière de santé. Il a ouvert la porte à une sorte d'assurance autonomie. On sait que c'était... pour rompre avec la logique des crédits d'impôt en soins à domicile. Il nous dit qu'il va mandater la commissaire au bien-être pour se pencher sur la meilleure manière de favoriser la soin à domicile pour les personnes âgées qui veulent rester à domicile. Ça, c'est du nouveau.
Oui. Et Régent Hébert, sous le Parti québécois, avait proposé une caisse d'assurance autonomie. Ce qui était l'élément difficile à comprendre, c'est comment on pouvait arriver à le financer lorsque ça a été présenté par les péquistes. Mais là, on a comme l'impression que peut-être que le gouvernement de la CAQ veut un peu revenir à ça. On demande en tout cas des recommandations à ce sujet-là de la commissaire, comme tu l'as indiqué.
Menace aux médecins, on l'avait remarqué, toi et moi, parce qu'on écoute attentivement la période de questions. Mais François Legault, il y a 2 semaines, si je ne m'abuse, avait dit les médecins, là, s'ils prennent pas plus de patients en charge, ben on va leur faire une loi spéciale.
Exact, c'est ça. Il a dit on va arriver avec un projet de loi là-dessus. Donc là, il a remis une couche de pression sur les médecins en leur disant j'aime toujours mieux une entente négociée, mais s'il le faut, on va le faire. Donc, effectivement, là-dessus, il a tapé sur le clou.
Autre nouveauté, la fin des hydrocarbures au Québec et un nouveau ministère de la cybersécurité.
Oui, ministère de la cybersécurité. Donc ça veut dire, dans le fond, Éric Kerr monte en grade. Parce que c'est un ministre délégué, il a une tout petite équipe. Et honnêtement, il fallait qu'on arrive à ça. Parce que quand tu regardes l'ampleur de ce qu'il a sur le dos ou sur sa table à dessin, là, on lui donne beaucoup de responsabilités. On veut qu'il arrive à créer une espèce de carte numérique unique pour chaque Québécois.
Citoyenneté numérique.
Exact, qui pourront après ça transiger avec le gouvernement de façon beaucoup plus simple. Et juste ça, c'est énorme. Et évidemment, M. Kerr serait impliqué aussi dans la transformation de l'informatisation en santé, pour ne nommer que cet autre chantier-là. Donc, c'est normal qu'on lui donne plus de moyens, donc il aurait un véritable ministère. Et pour ce qui est de l'économie verte...
L'interdiction ou la fin de l'exploitation des hydrocarbures.
Je m'attendais à ce que M. Legault se garde un peu cette munition-là pour faire une annonce à la COP26, parce que il a vraiment parlé d'un pôle de transport électrique, d'un pôle mondial aussi pour la filière batterie et aussi pour l'hydrogène vert. Alors, j'ai l'impression qu'il a abattu tout de suite ses cartes, qu'il aurait pu peut-être annoncer davantage à Glasgow bientôt. Mais bon, alors, je pense que ça lui permet d'aller au-devant.
Oui, et les critiques, parce que là, déjà, les critiques sont sur l'environnement. Québec solidaire dit tout à l'heure, Gabriel Nadeau-Dubois disait qu'il avait carrément oublié l'environnement.
Oui, parce que M. Nadeau-Dubois disait d'ailleurs que c'est pas normal que ça ait pris, je sais pas combien de minutes, je pense qu'il a dit 50 minutes.
Il a calculé, oui.
Bon, mais l'important, c'est ce qu'il a dit, je pense, au-delà du moment où il l'a dit. Et M. Legault, donc, montre qu'il n'arrivera pas à la COP26 les mains vides.
Moi, j'ai été bien intrigué par la politique nationale d'architecture. Ça m'érotise, je dois le dire. Puis, comme la transformation du cours éthique et culture religieuse en un cours de culture et citoyenneté québécoise. Ça, c'est formidable.
On sait que le cours de CR doit être transformé. Oui. Ça sera annoncé relativement bientôt. Là. On sait que c'est sur la table de Jean-François Roberge cet automne. Et M. Legault a insisté sur le fait que, justement, on a parlé tout à l'heure de cohésion sociale. Et il a dit que ça commence par la culture, justement,
oui,
québécoise.
Ça nous
qui
a
doit
aidé.
Être enseignée.
Dans la pandémie, c'était bien de lier les deux. Tu vois, peut-être un petit clin d'œil rigolo à la fin. Le lieutenant-gouverneur, parfois, nous fait rire.
Oui, le lieutenant-gouverneur Michel Doyon, qui a prononcé quelques mots avant le discours inaugural du premier ministre et donc après avoir fait sa propre allocution, il s'est levé. Il est passé devant la chef de l'opposition officielle comme si rien n'était et est allé donner du coude. Normalement, on donne la main, mais là, il a donné du coude à Gabriel Nadeau-Dubois. Et c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui, à travers son masque, lui a fait signe, il faudrait saluer aussi Mme Anglade. Alors, c'est un moment un peu gênant pour Dominique Anglade. Le lieutenant-gouverneur est allé par la suite lui donner du coude à elle aussi et à Joël Arsenault.
Qui l'a appelé d'ailleurs Dominique Anglade. Le lieutenant et gouverneur étaient peut-être un peu nerveux aujourd'hui.
Et c'est drôle parce qu'on n'arrête pas de dire que cette session-ci, c'est comme si Gabriel Nadeau-Dubois se plaçait en opposition.
Oui.
Officiel,
mais
là,
On dirait que ça venait accréditer tout ça. Merci beaucoup, Rémi. On s'en reparle demain.
À demain.